Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue enfin en public. Oh bon Dieu, qu'on est heureux de vous retrouver, chers fidèles du théâtre de l'Alliance française. Et c'est pour un deuxième masque de saison consacré à la rentrée littéraire, avec Olivia de Lamberterie, toute bronzée du L, avec Jean-Claude Raspienjas, de La Croix, Arnaud Vivian, de Transfuge et de Regard. Et on attend un quatrième invité qui a peut-être raté son train. On verra dans quelques instants pour parler des nouveaux romans donc de cette rentrée. Signé Alice Zénitaire, Lola Lafont, Camille Laurence, Grégoire Delacour et l'Italien Eri De Luca. Dans le courrier de la semaine, lors du dernier masque littéraire, Patricia Martin se demandait à propos de la correspondance de Jean-Patrick Manchette ce qu'étaient les chansons de la brigade Lincoln. Eh bien, les réponses de nos auditeurs ont fusé de partout. La brigade Lincoln était la brigade internationale américaine qui combattit aux côtés des républicains pendant la guerre d'Espagne, No Pasaran. Nous écrit Laurent Bernard, la brigade de Lincoln ou 15e brigade, ajoute Jocelyne, mais aussi Rose Conson, Jacques Milewski, Alain Ruby, a été constituée par des volontaires des États-Unis qui ont servi pendant la guerre civile espagnole dans les brigades internationales. Ils ont combattu contre Franco et les nationalistes. La brigade Lincoln, précise encore Christian Dubois de Paris, comprenait des Américains mais aussi des Anglais et pour Violaine, ces hommes étaient des héros. Et pour en revenir à Manchette, Arnaud Sanquer nous remercie d'avoir parlé de la correspondance de cet immense écrivain, dit-il. Et il nous écrit, si Arnaud a évoqué les chroniques ciné de Charlie Hebdo, il n'a pas signalé la parution de celle-ci en mai dernier aux éditions Wombat, sous le titre « Les yeux de la momie ». J'aimerais que le maximum de personnes aient la possibilité de se régaler autant que moi face à l'intelligence, l'humour, l'élégance de cet homme et de ses écrits sur le 7e art. Et merci pour tout ce que vous faites pour la survie de la lecture. Je vois que Frédéric Becbédé du Figaro Magazine nous a rejoint. On s'était habitué à être sans toi, mais je vois que tu es là. Et un autre merci qui me touche, il est signé Mario Caloustian. Dans la peste que nous avons lue ou relue grâce à vous, c'est vrai qu'on en a parlé pendant le confinement, Bernard Rieux dit que la morale consiste chacun à son niveau à faire son métier. Un immense merci à vous d'avoir fait le vôtre avec autant de dévouement, de nous avoir accompagnés pendant tout le confinement et, chose très rare, de nous accompagner encore tout l'été. Encore merci au service public dans ce qu'il a de mieux. Merci Monsieur Mario Caloustian. Voilà, et on commence donc ce deuxième volet de la rentrée littéraire. On avait parlé la fois dernière d'Éric Reinhart, on a parlé d'autres romans de la rentrée. On recommence donc là avec Fille. C'est le roman chez Gallimard de Camille Laurence, l'auteur de Celle que vous croyez, et Dans ces bras-là, qui aurait dû paraître le 26 mars, et dont le confinement a reporté la sortie au 20 août. La narratrice s'appelle Laurence Barraquet. Elle est née à Rouen, en 59, d'un père médecin, d'une mère au foyer. Un père qui, lorsqu'on lui demandait s'il avait des enfants, répondait « Non, j'ai deux filles ». Laurence ne tarde pas à comprendre que la position des filles, des garces, là je cite Camille Laurence, est inférieure à celle des garçons, sentiment qu'elle éprouve ensuite à l'école, au cours de danse, à la bibliothèque. Bref, un roman d'apprentissage au sens propre où Laurence va tenter de vivre en s'affranchissant de la domination masculine, de construire son identité. Elle va être mère, connaître la douleur d'un accouchement, il faut dire dramatique, et le deuil d'un enfant mort, et puis devenir la mère d'une Alice qui, elle, sera assignée à la liberté comme sa mère l'était à l'aliénation. Un roman très beauvoirien, qui pour moi, mais vous allez me dire si je me trompe, a des accents parfois très autobiographiques. On a l'impression qu'elle parle aussi de ce qu'elle a peut-être connu, vécu. Olivia.
Oh oui, je pense que c'est un livre ouvertement autobiographique. Moi, j'ai adoré ce livre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aimé autant un livre de Camille Laurence, parce que c'est l'itinéraire d'une fille au travers de ce que la langue française dit des filles. Et ce que la langue française dit des filles est toujours dévalorisant. C'est comme si le langage était le miroir de l'inconscient de l'époque. Alors ça commence très très tôt, je trouve que la première scène est absolument géniale, elle raconte la scène de sa naissance. Et moi je me demande pourquoi il n'y a pas plus de scènes d'accouchement dans les livres, parce que c'est quand même...
Il y en a souvent.
Mais à ce moins point qu'au cinéma. Réussi, c'est formidable, parce que c'est très drôle. C'est une fille qui naît, et au travers du langage, on va comprendre comment c'est un problème. Ça commence d'ailleurs avant même la naissance, à l'échographie, où comme on ne voit pas de sexe masculin, on dit « ah ben il n'y a rien à voir ». Bon, alors déjà on se dit que c'est mal parti. Et puis après, le premier mot du médecin, alors que le père qui a déjà une fille est venu parce qu'il se dit cette fois ça va être un garçon, il est là. Et puis on dit « c'est une fille », avec vraiment un ton désolé. Après on dit « c'est encore une fille », ce qui est encore pire. Et puis après on dit « c'est bien aussi ». Mais on voit bien que personne n'y croit. Le comique se poursuit quand le père va déclarer l'enfant, d'ailleurs, et qu'il n'a pas de nom. Alors il va finir par l'appeler Laurence, ce qui va provoquer une réaction très lacanienne de sa grand-mère, qui dit « c'est Laurence ». Vous voyez comme elle était bien partie dans la vie, cette jeune fille. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle arrive, une fois cette scène très drôle et très acide passée, à changer complètement de ton. Et il y a une deuxième scène d'accouchement dans le livre qui est l'accouchement d'elle de son petit garçon qui va mourir, qui est éblouissante. Il y a une scène d'abus sexuel. Il faut dire que cette rentrée est la rentrée littéraire de la libération de la parole des femmes, parce que moi, dans tout ce que j'ai lu beaucoup, beaucoup d'abus, d'harcèlement, de viols.
On en parlait d'ailleurs la fois dernière avec
déjà Isabelle Carré.
Le roman d'Isabelle Carré.
Là, il y a un abus qui, en plus, est couvert par toutes les femmes. Et puis, il y a sa fille. Et la dernière phrase du livre, après « c'est encore une fille », c'est « les filles, c'est merveilleux ».
Il y a aussi, j'avais souligné, « garçon, c'est un constat, garce, c'est un jugement ».
Ah, puis il y en a plein, parce que par exemple, « garçon », vous dites « garçon », mais vous dites « fils ». En revanche, pour « fille », vous dites « fille » et « fille ». Pour dire « mari », vous dites un « mari ». Pour une femme, vous dites « femme » et « femme ». À chaque fois, on n'a qu'un seul mot.
Si en plus, ils appellent « garçon », t'imagines ?
Oh là là. Et je ne vous parle même pas de cette règle de grammaire qui est que le masculin l'emporte toujours sur le féminin.
Arnaud ?
Oui, c'est peut-être un roman ouvertement autobiographique, mais c'est pas un roman fermement autobiographique. C'est bien ça, à mon avis, le problème. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai pas trop compris où Camille Laurence avait-elle choisi cette forme. Des fois, elle s'exprime à la deuxième personne du singulier, comme si elle s'adressait à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Des fois, le personnage, en tout cas, dit je, mais est-ce que c'est pas l'auteur? Et je ne suis pas un grand spécialiste de l'œuvre de Camille Laurence, j'ai cru comprendre qu'elle avait effectivement perdu un enfant, qu'elle avait écrit non pas une fiction ou une auto-fiction, mais enfin un livre sur cette tragique expérience, qu'elle avait même accusé ensuite
Marie-Dariussec de
plagiat
ce sujet,
qui est quand même un voilà. Et donc effectivement, cette histoire d'ailleurs de plagiat psychique était quand même quelque chose d'assez extraordinaire au moment où c'est arrivé. Et il y a bien quelque chose là, effectivement, de moi, j'aime beaucoup la psychanalyse, mais à un moment, ça devient une espèce de bazar psychanalytique dans ce livre, à tel point quand même qu'on a l'impression, c'est quand même très bizarre et assez désagréable, je dois dire, puisque en fait le personnage, ne parlons pas donc de l'auteur, mais le personnage a une fille qui devient homosexuelle. Et donc, elle explique ça par le fait qu'il y a eu un enfant manquant. Donc, si sa fille est devenue un garçon manqué, ce qui est déjà une expression assez étrange, c'est pour remplacer cet enfant mort. Je crois, là, si vous voulez, qu'on est en plein bazar psychanalytique et que le livre repose comme ça sur des choses qui paraissent très étranges et surtout très étranges aujourd'hui, en fait. Il y a quand même des raisonnements, là, qui sont apparemment psychanalytiques, mais qui en revanche sont complètement périmés et dépassés. Ça donne vraiment un sentiment d'interprétation has-been de la sexualité, non pas des rapports de domination, parce que ça on comprend bien qu'ils ont existé et qu'ils existent certainement encore et qu'il faut lutter, et pas simplement à travers le langage. Je remarque au passage que c'est peut-être un des premiers romans, puisque ça s'appelle roman, écrit de manière un peu en écriture inclusive. C'est la première fois que ça apparaît.
Il y a une ou deux phrases,
en tout cas,
non,
on n'est pas écrit.
Non, non.
Un peu, non. Je vous assure, il y a deux ou trois moments.
Une phrase.
Oui, mais voilà, inclusive. C'est un début d'écriture. Moi, je suis pour l'écriture inclusive. Dans ce débat-là, je suis pour, non pas que je pense qu'elle soit réalisée, je pense que d'un point de vue typographique, etc., tout ça est atroce pour l'instant, mais rentrer le schéma de l'écriture inclusive dans nos têtes et dans notre, peut-être pas dans notre grammaire, mais dans l'esprit de la langue, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Enfin, c'est un roman qui m'a laissé très perplexe.
Il y a une phrase sur l'écriture inclusive du père qui dit « Oh ben c'est une connerie parce que de toute façon, la femme est déjà incluse dans l'homme. » Bien sûr.
Frédéric.
En fait, le projet, je vais vous l'expliquer, Camille Laurence a voulu dire que Simone de Beauvoir s'est trompée. En effet, dans Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir, en 1949...
Ne me dis pas que tu as lu Le Deuxième Sexe.
Bien sûr que si. Elle dit « On ne naît pas femme, on le devient. » Et là, Camille Laurence contredit Beauvoir en disant « Tu n'es pas née indéfinie, il y a déjà un E. » Donc le projet, c'est de dire que c'est la langue française qui emprisonne la femme dès sa naissance, avant même qu'elle se définisse comme femme. Donc c'est un complément à Simone de Beauvoir. Le problème aussi dans ce livre, c'est que c'est beaucoup de choses qu'on a déjà lues un peu. Quand elle s'énerve, ça fait penser à Christine Angot.
Oh non.
Quand elle est sociale, à Annie Ernaux. La malédiction de naître fille, c'est une phrase de Gisèle Halimi. Il y a beaucoup quand même, maintenant, on a compris quoi un petit peu. Alors, c'est vrai, je comprends ce que dit Arnaud. On se demande pourquoi un livre de plus pour répéter ces choses-là qu'on connaît par cœur. Et ça m'embête d'être un homme et de dire ça, parce que j'espère que si j'étais une femme, je penserais exactement la même chose. À savoir que depuis 1949, tout de même, les choses ont un peu évolué. Il y a quand même eu un petit peu de progrès. Donc reconnaissons ça au moins.
Mais le problème n'est pas qu'il y ait eu du progrès ou pas. Le problème, c'est qu'à l'époque où naît Camille Laurence, être une fille est moins bien qu'un garçon. Donc ça, tu peux pas lui enlever.
Dans
ça
sa dépend, famille. Ça dépend. Dans sa après, famille à elle.
Oui, dans sa famille à elle.
Elle généralise à partir de son père qui avait l'air d'être un phallocrate absolu.
Et surtout, il s'est très mal comporté dans cette histoire.
Je trouve que les femmes ont le droit de raconter
leur émancipation
depuis quoi une quarantaine d'années, alors que ça fait 2000 ans que les garçons nous racontent comment ils roulent des biceps. Donc,
évidemment,
on a encore un peu de marge.
Évidemment, mais tu comprends que la littérature, c'est particulariser les choses, et ce serait plus intéressant, au lieu de faire des grandes généralités.
Mais je trouve que c'est pas du tout un livre général, justement. C'est un livre très fin, un livre de détails, et un livre d'une grande fluidité.
Je suis d'accord sur la dernière phrase, c'est merveilleux une fille, et sur ce point, je suis entièrement d'accord.
Monsieur Jean-Claude Raspienjas.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Olivia. Enfin, je veux dire, vous lui faites un mauvais procès.
Bah oui.
Encore une fois, c'est un mauvais procès. Ce que tu dis, Arnaud, c'est ne pas prendre en considération que ce livre est aussi un travelling à travers les époques, les âges, l'évolution justement du regard de 1959 à celui de 2020, avec sa fille, ce qui s'est passé, ce qu'elle raconte. C'est un livre vraiment sur la malédiction, dans les années 50, de naître femme, et c'est à la fois dans la condition de la famille, mais c'est aussi évidemment sur la langue. Moi, je me moque absolument de savoir si c'est autobiographique, pas autobiographique, mais où est-ce qu'on est, c'est confus.
Oui, tu te moques de la littérature.
Non, c'est pas la peine de faire ce genre de procès. Attends, c'est un, c'est facile. Deux, c'est idiot. Et trois, c'est faux. Donc voilà. Donc excuse-moi.
T'as pas l'impression que ça a déjà été dit.
Mais
tout
et
ça.
Alors, et ça se redira encore. Tout dépend
la façon
de la
forme,
dont c'est
ça t'intéresse jamais.
La forme est
intéressante. Tout dépend de la façon dont c'est dit. Et excuse-moi, la valeur est à la fois du témoignage et ne t'en déplaise littérairement. Moi, je trouve ça très, très bien. Je trouve que c'est un livre fin. Je trouve que c'est un livre subtil par rapport au tranchant du propos. Et qu'il s'agisse de... Parce que vous parlez de l'accouchement de son fils dramatique qui avait donné donc lieu à ce livre qui s'appelait Philippe.
Il était sublime.
Ce qui est absolument extraordinaire, c'est la façon dont les parents lui font changer de gynéco pour arriver à cette catastrophe. Enfin, il y a tout un enchaînement qui est intéressant sur le tripotage du frère du grand-père quand elle a 9 ans, ce qui est absolument terrible. Oui, ça a déjà été dit, mais c'est qu'il y a l'acquiescement des adultes. Ils le voient. Ça se passe sous leurs yeux et il lui demande à elle surtout de ne rien dire et que rien ne se sache. Bon, moi, je suis désolé, je n'ai pas de bémol par rapport à ce livre. J'aime beaucoup ce livre. Olivia, je te rejoins et on va laisser.
C'est pas la première fois que vous faites couple.
Oui,
Olivia et Jean-Claude.
Mais c'est aucun bémol.
Fille.
Je suis ravie.
Ah, moi aussi.
C'est le roman de Camille Laurence chez Gallimard. Encore un livre qui est dans cette tonalité dont tu parlais, Olivia. C'est 6 ans après. Un livre que j'avais adoré, qui était La petite communiste qui ne souriait jamais. 3 ans après, Merci Mary Patty, Lola Lafont qui signe Chaviré, ER, le verbe, chez Actes Sud, l'histoire de Cléo, 13 ans, jeune danseuse de modern jazz, dans une MJC de la banlieue parisienne. Au milieu des années 80, elle est repérée par une certaine Cathy, qui représente une mystérieuse fondation Galatée, qui offre des bourses d'études aux jeunes filles, et c'est un piège, évidemment, un piège sexuel, qui fera de Cléo, et c'est peut-être le pire dans le livre, une rabatteuse. C'est-à-dire elle livre les collégiennes à des hommes, et puis après une danseuse de cabaret, une danseuse de proximité, comme on disait, danseuse aussi sur les plateaux télévisés de Michel Drucker. Et donc, Chaviré raconte le destin de ses 13 à ses 48 ans, avec des témoignages de celles et ceux qui l'ont connue, jusqu'au jour de 2019, où la police enquête enfin sur cette fondation, roman ouvertement MeToo, axé, dit Lola Lafont, autour de ce vers de Musset, à défaut du pardon, laisse venir l'oubli. J'ai l'impression d'être là, pour le coup, directement dans la suite du roman d'Isabelle Carré, dont on parlait il y a 15 jours, Frédéric.
Oui, c'est pas non plus le contraire du livre d'Éric Laurent. C'est Éric Laurent, Une fille de rêve, sur cette espèce de dégringolade d'abus sexuel en abus sexuel, qui est le destin d'une jolie fille de milieux socialement défavorisés. C'est comme si, en fait, Lola, moi je la connais bien et je suis pas objectif parce que j'ai eu la chance de découvrir son premier roman quand j'étais éditeur. Elle a une force, une puissance, une rage en elle depuis qu'elle était dans les Black Blocs. Et je pense que c'est un livre plus sur la lutte des classes, c'est un livre marxiste, plus que sur MeToo. C'est-à-dire c'est vraiment l'histoire d'une prolétaire qui veut s'en sortir. Les parents la poussent. Les parents poussent souvent les jolies jeunes femmes à aller dans des endroits où peut-être on pourra les rendre célèbres. Et tout ça pour s'en sortir. Et c'est bien le problème. Le problème n'est pas seulement de la condition féminine. C'est celui de la pauvreté, de la misère, qui fait que on fait miroiter un espoir fallacieux à beaucoup de, notamment de danseuses. Et là, c'est très très bien vu. Et je dois reconnaître que, elle met pas toujours autant que quand elle a débuté. C'est peut-être même meilleur que les deux précédents, qui étaient des livres plus biographiques sur Nadia Comaneci et Patty Hearst. Je trouve que là, vraiment, elle retrouve cette verve et son lyrisme révolté, et ça emporte vraiment le morceau.
Jean-Claude ?
Oui, pareil. Même avis. C'est un livre dont le pivot, et je suis d'accord avec toi, peut-être moins sur le côté lutte des classes, mais d'abord, c'est pas des misérables, c'est une famille de la classe moyenne.
Classe moyenne
qui passe son temps devant la télévision et qui rêve devant la télévision, et évidemment, la gamine rêve de ce que les parents lui offrent à voir.
Sa mère aussi.
Oui. Sa mère aussi. Et je trouve que c'est une description absolument formidable, et que le vrai pivot de ce livre, c'est la description sociale, la description de la classe moyenne, c'est-à-dire qu'il y a les rêves de cette gamine. Et je trouve que la description des méthodes de prédation sont absolument formidables dans ce livre. Cette fameuse Cathy, la méthode dont elle s'approche de cette gamine, la façon dont elle la met en confiance, la façon dont elle éteint la vigilance des parents, la façon dont cette gamine...
La Ghislaine Maxwell de la banlieue parisienne.
Plus Matzneff avant que...
Oui, mais après, avant... comment cette fille qui a compris ce qui est en train de se passer, et qui a compris, et qui ensuite joue, comme tu disais, la rabatteuse elle-même, et qui va se trouver prise dans des tourments. Et il y a un autre roman dans ce roman, c'est ensuite, quand elle devient danseuse dans les ballets de Drucker.
Les ballets, c'est un grand mot. Donc.
Oui, enfin, bien sûr que c'est un grand mot. Non, mais c'est bien, c'est un grand mot. Mais ce qu'elle fait, Lola Lafont, qui est intéressant, c'est qu'elle ne juge pas, elle redonne de la dignité à ces figurants de la célébrité qui sont complètement invisibles. C'est encore une autre catégorie d'invisibles. Ils sont invisibles. Et la façon dont Lola Lafont raconte la vie à l'intérieur de ces ballets, je sais pas comment on appelle ça, la façon dont elle donne
ses opéras, les opéras.
Il y a aussi un spectacle genre Moulin Rouge, et avec phrase d'écrivain, les filles font semblant d'être nues.
Ça, oui, les coulisses. Enfin, la vie intérieure de ce groupe de filles qu'on ne voit pas et qui sont pourtant indispensables à cette industrie du divertissement. Enfin, tout est bien, je trouve. C'est magnifiquement écrit, c'est bien construit, c'est fort, c'est puissant, c'est riche. Et je suis pas d'accord sur le côté « elle a tout ramassé de l'esprit de l'époque ». Non. Je trouve qu'au contraire, c'est beaucoup plus fin que ça, c'est beaucoup plus fort. Et moi, je soutiens et je recommande absolument ce livre.
Olivia.
Ah bah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et sur les deux dimensions du livre, c'est la description d'un système de prédation pédophile organisée.
Rappelle 13 ans quand ça arrive.
Elle a 13 ans et 5 mois lorsqu'elle se retrouve devant un prétendu jury d'hommes censé lui décerner une bourse pour qu'elle devienne danseuse.
Aux États-Unis.
Et c'est vachement bien raconté parce qu'il n'y a pas du tout de complaisance. Il y a la manière dont le type lui pose des questions. Il lui dit « Est-ce que tu as un petit ami ?» Il lui dit « T'es pas frigide au moins ?» Et cette phrase est horrible parce qu'il va commencer à la toucher, et là, il n'y a rien. Il y a juste une phrase où il y a le métal d'une bague froide. Elle a vraiment, je trouve, une manière de raconter ça extraordinaire. et comment après, parce que ce qui est intéressant, c'est comment cette fille ne se vit jamais comme une victime, mais elle se vit comme honteuse
parce qu'elle a
et comme coupable parce qu'elle a été rabatteuse. C'est le pire de la perversité. Et comment, du coup, pendant des années, elle se retrouve comme coincée dans une espèce de faille spatio-temporelle qui est ces événements-là, et comment on ne peut pas parler. Et je trouve que c'est intéressant parce que cette libération de parole dont on a parlé, on a vanté le courage de ses filles, mais je trouve que là, Lola Lafont, elle raconte vraiment le mécanisme de cette fille pour travestir la réalité, pour la rendre supportable d'ailleurs, tout simplement. Et puis, c'est aussi vraiment un grand livre sur que veut dire d'être une fille comme ça de milieu populaire. Il y a des très belles pages sur le mépris, justement. Le mépris du tout venant pour ces filles qui dansent derrière Michel Drucker. Et ça, j'ai trouvé que c'était très beau aussi.
Par des jeunes gauchistes, il faut le dire.
En plus. Oui, voilà. Et au-delà de ça, moi, je n'aime pas ce livre parce que je suis une femme. J'aime ce livre parce que c'est un grand roman, très maîtrisé, très bien construit. Et je trouve que dans cette rentrée, il y a beaucoup d'écrivains qui se prennent les pieds dans le tapis de la narration. Et elle, enfin, c'est une vraie grande romancière.
Il y en a aussi beaucoup très bons livres. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une rentrée que je trouve, moi, très riche.
Mais c'est un vrai grand roman.
Arnaud.
Oui, c'est surtout un très beau portrait de femme. C'est l'histoire d'une femme. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas ramener ce livre à cette histoire de prédation sexuelle qui n'est que l'origine, finalement, de la manière... Non, de comment elle va s'en sortir dans la vie grâce à des rencontres qui vont lui forger non seulement l'idée, un caractère... C'est-à-dire qu'elle va décider de devenir célèbre dans l'anonymat. Elle devient danseuse avec vraiment l'idée, la force, la volonté d'être une grande danseuse, aussi bonne qu'une célèbre danseuse, sauf qu'elle choisit l'anonymat parce qu'elle est justement prise dans cette affaire de prédation sexuelle lorsqu'elle avait 13 ans et qu'elle en a tiré une culpabilité. Et après, avec des rencontres, elle travaille sur le thème de l'oubli et du pardon grâce à un jeune homme qu'elle rencontre. Très beau passage qui l'invite chez ses parents juifs, qui lui apprennent la tradition juive sur ces questions-là, qui lui passent des livres, qui lui font lire des choses. Puis elle rencontre une jeune activiste, pour le coup, une jeune gauchiste, qui lui apprend autre chose, qui lui apprend la lutte, qui lui apprend la révolte, qui lui apprend le syndicalisme au sein de ses troupes. Et donc, elle apprend encore autre chose et elle devient une personne qui a réussi effectivement, non pas à oublier, en tout cas, à devenir quelqu'un, un être parfait, quasiment, socialement. Cette construction-là, cette invention d'un personnage, c'est l'anti-livre par rapport à Eric. On a parlé d'Eric Laurent. Lui, il invente quelque chose. C'est totalement, comment dire, faux. Et ici, on est dans la vraie construction d'un vrai personnage de femme.
Et il y a des très très belles pages sur la danse,
et sur Jeff Buckley. Si vous êtes là, il y a une page où elle décrit le concert de Jeff Buckley au Bataclan, qui est absolument splendide.
Et puis, c'est vrai que c'est le seul roman de la rentrée, il soit autant question de Michel Drucker.
Un roman où il est question de Michel Drucker peut pas être vraiment mauvais non plus.
Voilà, absolument. Et donc, c'est chaviré, c'est chez Actes Sud et c'est signé Lola Lafont. Un jour viendra couleur d'orange. Le vert, vous le savez sans doute, est d'Aragon. Et c'est le titre du nouveau roman avec lequel Grégoire Delacour, l'auteur de la liste de Mes Envies, passe avec armes, bagages et gros tirages des éditions Lattès aux éditions Grasset, un roman dont le jeune héros, Geoffroy, 13 ans, est atteint du syndrome d'Asperger. Et il tombe amoureux d'une Jamila de 15 ans. Le père de Geoffroy, Pierre, vigile dans un supermarché et gilet jaune, occupe un rond-point dans le nord de la France. Sa mère, Louise, est infirmière en soins palliatifs. Et elle quitte Pierre le jour où il ordonne à son fils, à Geoffroy, de lancer un cocktail Molotov sur un bâtiment public. Alors avec Jamila, à qui ses frères d'ailleurs demandent de porter le voile, Geoffroy part se cacher dans la forêt, loin de la violence du monde, où ils rencontreront un ermite, un peu genre Bec Bédé, qui s'appelle Agop, qui connaît le langage des arbres, des oiseaux. Bref, une fable, plus qu'un roman, notamment sur un enfant différent. Arnaud ?
Sainte-Beuve disait que son gibier préféré, c'était Balzac. Moi, plus modestement, mais sans doute plus justement, c'est Grégoire de la Cour. Dès que je lis Grégoire de la Cour, espèce des déruptions de boutons, comme Louis de Funès, là, dans l'aile ou la cuisse, lorsqu'il est obligé de manger, sous la menace d'un fusil de chasse, des plats pourris. On voit à peu près comment travaille Grégoire de la Cour, c'est qu'il fait des listes, hein. Peut-être un tableau Excel, donc il met à peu près tous les sujets de l'actualité, donc gilets jaunes, autisme, fin de vie, voile, islamisme radical, vie mystérieuse des arbres.
Il y a même l'incendie écologie. De Notre-Dame de Paris.
Mais vous avez pas été.
Oui, même l'incendie de Notre-Dame. Et à partir de là, il se dit voilà, il faut que je fasse un roman, un peu comme un espèce de jeu d'esprit qui réunirait toutes ces choses-là. C'est le portrait de ce gilet jaune est absolument mais dégoûtant. Dégoûtant.
Oh, t'exagères. Si. De Pierre.
Oui, il ne comprend pas. Donc évidemment, il est un peu buté. Hein. Il comprend pas que son fils est autiste. Il comprend pas la différence. Lui, il voudrait un fils normal. Tout ça est vraiment idéologiquement, mais pour moi, répugnant. Ce que ça raconte, l'histoire là de elle tombe amoureuse d'un type en fin de vie. Mais c'est quand même, je sais pas, c'est. Il y a vraiment, moi, à chaque fois que je lis un livre de Grégoire de la Cour, j'éprouve une espèce de saleté devant la pensée.
Tu n'exagères pas un peu, non?
Non, pas du tout. Non.
C'est un peu.
Jean-Claude.
C'est un des meilleurs romans sur les gilets jaunes.
Hein?
C'est un des meilleurs romans sur les gilets jaunes, sur leurs conditions sociales, sur leurs rêves désordonnés, sur leur espérance fracassée et sur l'impasse de leur révolte. Je suis désolé, j'étais comme vous, c'est-à-dire que moi, tous les livres qu'on a eu à lire de Grégoire de la Cour, j'étais d'accord avec vous, sauf que ça tourne là à la séance de Baltrap. C'est-à-dire, de la Cour est là, on sort son flingue, ce que tu viens de faire, et on y va. C'est le pigeon d'argile, c'est bien.
Mais
là,
à chaque fois,
il a changé.
Le problème, c'est qu'à chaque fois, je fais cette expérience.
Il a changé de braquet et il a changé de style et d'approche.
Et d'éditeur,
oui, mais peut-être c'est un rapport. Et je suis désolé, la rencontre amoureuse entre ce Pierre Vigile, cette femme infirmière, est une très belle rencontre. Ce couple se disloque parce qu'arrive un enfant différent. Ce sont des choses qui arrivent très souvent. Arnaud, ne t'en déplaise, là aussi. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent très souvent, qui sortent pas uniquement de l'invention de Grégoire de la Cour. C'est un très beau personnage de femme, cette Louise, et un très beau personnage de mère face à cet enfant, effectivement différent. Et il est normal que ce père ne comprenne pas, étant ce qu'il est, qu'il ne comprenne pas la différence.
Comment ça,
de cet
enfant. Comment, étant ce qu'il est?
Étant ce qu'il est, c'est-à-dire sa formation.
Tu sors ça.
Attends, tu veux bien là? Oh.
Attends,
Arnaud, ça va, tu te calmes.
Arnaud, t'arrêtes,
tes délires idéologiques permanents, s'il te plaît. On s'intéresse à un personnage de roman, si tu veux bien. On n'est pas dans la rue en train de sortir des slogans.
Alors, il y a un personnage de roman, il n'y a rien de normal dans la littérature.
L'origine de ce personnage romanesque fait qu'en effet, il a une grosse difficulté parce que forcément, il s'est projeté dans un enfant idéal qui aimerait aller faire du foot, aller à la chasse avec lui, enfin, tous les trucs, qui aimerait les bagnoles, qui aimerait tout ça. Il se trouve avec un enfant totalement différent qu'il ne peut pas comprendre. C'est des choses qui arrivent, je suis désolé, tu ne peux pas enfermer de la Cour dans une sorte de position idéologique complètement stupide et surtout qui le ramène à quelque chose qu'il n'a pas voulu faire. Excuse-moi. Donc il y a trois romans en un dans ce roman.
Toi, tu sais ce qu'il a voulu faire, toi.
Il y a trois romans dans ce roman. Il y a le roman des Gilets jaunes avec le destin de ce Pierre et c'est un destin tout à fait intéressant et c'est un personnage romanesque tout à fait intéressant. Il y a cet enfant autiste qui est fragile et menacé et je trouve que c'est un très beau portrait. Et il y a ces refuges de l'amour, c'est-à-dire cette histoire avec Jamila, l'histoire dans le bois qui est assez intéressante comme refuge et ne t'en déplaise, là encore, cette histoire d'amour de Louise à l'intérieur de l'hôpital est une audace assez intéressante. Alors, moi je trouve que ces trois romans forment un roman réussi. Je mets quand même un tout petit bémol, c'est que Grégoire de la Cour ne parvient toujours pas, malgré tout, à se débarrasser de certaines scories malencontreuses. Les mauvaises citations d'Aragon, ça c'est quand même dommage, c'est-à-dire qu'il arrive à citer Aragon, entre guillemets, en disant l'avenir de l'homme et la femme, ce qui brise un petit peu quand même l'harmonie du mot d'Aragon.
Comme tu dirais, c'est normal, c'est Grégoire
de la Cour. Non, mais il y a une autre chose, ça c'est du de la Cour, et c'est vraiment dommage. Quand Louise tombe amoureuse de cet Aurélien, ils ont les yeux qui brillent, et il écrit de liquide miscible. Alors ça c'est un peu dommage, mais pour une fois, arrêtons de le brocarder et essayons de voir ce qu'il a essayé de faire et accordons-lui d'avoir un petit peu réussi ce qu'il a cherché à faire.
Voilà. Frédéric.
C'est très courageux, c'est bien de voler à son secours. En fait, ma grand-mère disait, il ne faut pas mettre trop de sucre dans la confiture.
C'est sage, hein.
Je trouve que Arnaud a quand même raison de dire que c'est un ramasse-miettes de l'actu. Il y a trop les EHPAD, les bébés en couveuse, les manifs, une morte, un enfant autiste. Tu vois, ça fait trop. Et moi, je trouve que c'est poisseux à l'arrivée. Ah. Et c'est un écrivain qui donne du diabète. Et en cette période de Covid, il ne faut pas attraper le diabète. C'est une surcause de mortalité.
Olivia.
Alors moi, je trouve que le départ du livre est assez intéressant. Et j'ai bien aimé ce couple qui se déchire à la naissance de leur enfant autiste. Et je crois que ça arrive beaucoup dans tous les milieux. Et qu'il y a aussi plein de pères bourgeois qui ne comprennent rien à leurs enfants différents et qui auraient voulu qu'ils fassent maths sup, etc. Je trouve que ça, c'est un point de départ intéressant. Et je trouve que le personnage de l'enfant est très réussi et assez beau. Après, le problème, c'est la langue. La question, c'est comment est-ce qu'on peut parler des gilets jaunes normalement ? On a quand même déjà eu Alexandre Jardin qui parlait des gilets jaunes comme Bianca Castafiore. Hein, c'était quand même très très bizarre. Hein. Et là, il y a une sorte d'écriture hachée, très curieux, avec des phrases « ils écoutent le silence ». Donc effectivement, pas possible. Alors moi, ma grand-mère disait « il faut pas charger la mule ». Et là, effectivement, au milieu du livre, il devient fou. Il commence à mettre de tout. Et je trouve que l'histoire, quand même, en soins palliatifs, moi, m'a vraiment beaucoup gênée. Et tout ça pour une sorte de vision du monde assez naïve, qui est finalement le monde est dégueulasse. Il se divise entre les gens qui ont des Porsches et les gilets jaunes.
Les gilets jaunes qui se cassent la main dessus en tapant.
Qui se cassent la main sur l'essuie-glace de la Porsche. Mais grâce à des gens simples et bons, ça va aller mieux.
Bon ben... Et c'est une vraie question, c'est cette histoire de roman sur les gilets jaunes, parce que, par exemple, Aude Lancelin a écrit La Fièvre, qui est plutôt réussi sur ce sujet. Ouais. Il serait temps qu'on puisse parler des gilets jaunes sans démagogie.
Sans grandiloquence. On n'est pas obligé de faire une espèce de faux Mordilla ou de faux Victor Hugo ou de faux... Je sais pas, c'est très bizarre.
Un jour viendra Couleur d'orange, c'est donc Grégoire Delacour. Attention, c'est chez Grasset. Et puisque Jean-Claude a pris courageusement la parole, je voudrais quand même signaler, je ne l'ai pas fait en début d'émission, mais qu'il a fait un portrait de groupe absolument édifiant, émouvant, passionnant et inattendu des routiers dans un livre qui s'appelle tout simplement Routier. C'est aux éditions de l'Iconoclaste, gros livre, enquêté, où Jean-Claude a passé des semaines et des semaines dans des cabines de 40 tonnes.
Se demandait ce qu'il faisait en dehors du masque et la plume.
Oui, mais n'empêche que...
Maintenant, on sait.
Moi, je lui dis chapeau parce que ce livre, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. J'y pense parce que tout d'un coup, on parlait à la fois des gilets jaunes et aussi...
Et surtout sur la place des routières, parce qu'il n'a pas suivi que des routiers. Il a aussi suivi des routières. Oui, oui.
En tout cas, livre passionnant, gros livre, hein, où j'ai appris beaucoup de choses. Et donc ça, c'est à l'Iconoclaste. Mais le Delacour, lui, est chez Grasset. Et comme un empire dans un empire, phrase cette fois empruntée à Spinoza et non à Aragon, c'est le nouveau roman chez Flammarion d'Alice Zéniter. Prix du Livre Inter 2013 pour Sombre Dimanche et Goncourt des lycéens 2017 pour L'Art de Perdre. Un roman qui commence en 2019 autour de la rencontre entre Antoine, qui est un assistant parlementaire d'un député socialiste, qui est déjà en soi pose quelques problèmes. Donc il est forcément très sceptique sur son métier et sur les politiciens en général.
C'est un frondeur, comme il faut le préciser.
Il rêve d'écrire, j'aime beaucoup, un roman sur la guerre d'Espagne. Et puis elle, alors elle, l'initiale, hein, qui est une hackeuse guerrière, paranoïaque, un peu viviantesque, dont le compagnon est arrêté parce qu'on le soupçonne d'avoir piraté une société de surveillance. Et ils se demandent tous les deux, Antoine et elle, comment, malgré tout, continuer le combat. C'est vraiment ouvertement un roman politique que signe Alice Zéniter. Est-ce qu'il vous a convaincu ? On va commencer avec Arnaud.
Écoutez, je pense que l'extrême gauche mérite une bien meilleure littérature que celle-ci. Il y a un problème avec ce livre, très clairement, c'est que... et d'ailleurs, je pense que c'est un problème qu'on rencontre dans d'autres livres. C'est une maladie qui attrape beaucoup d'écrivains français en ce moment, c'est que la documentation, si vous voulez, l'information, tue l'imagination. C'est très informé. Alors, mais est-ce que vraiment Alice Zéniter avait besoin d'aller à la cantine de l'Assemblée nationale pour décrire la cantine de l'Assemblée nationale ?
Bah, c'est quand même mieux.
Je n'en suis pas sûr parce que à l'arrivée, alors moi, si vous voulez, la rencontre entre une jeune hackeuse et un attaché parlementaire qui est passionné par la guerre d'Espagne, je me dis c'est formidable. Ils vont évidemment fusionner, travailler ensemble. Ils vont sortir des affaires sur Darmanin. Ils vont publier le plan des égouts qui mène à l'Élysée. Ils vont nous raconter les parties de chasse de Dupont-Moretti. Enfin voilà, ils vont faire un vrai travail d'action, de militant, etc. Bah,
écris-le, ce bouquin-là, si t'as envie de le lire, écris-le.
Oui, non, mais moi...
Mais non, c'est pas ce qu'elle a fait, elle a fait un autre livre.
Oui, pour l'instant, là, je suis obligé de parler de celui d'Alice Zeniter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ne... Alors, je veux pas divulgâcher totalement l'affaire, mais...
Non, non.
Mais ils ne font rien. Il faut bien le dire. Non, mais le constat, il est catastrophique.
Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se passe rien.
Oui, non, mais je pensais...
Je pense pas que tu aides beaucoup le livre, là, Frédéric.
C'est bien la première fois que tu nous sors une phrase comme ça, Frédéric.
Non, mais vous voyez, quand le grand personnage de Hackeuse, pour l'instant, dans le premier, en Millennium. Tout cas, évidemment, c'est Millennium. Donc, vous vous dites, mais Stieg Larsson...
Personnage récurrent.
Stieg Larsson, il avait un projet. Il faut se rappeler ce que le projet de Stieg Larsson. C'est qu'il était journaliste économique et qu'il ne parvenait plus à écrire la vérité dans les journaux sur ce qu'il savait, des magouilles qu'il connaissait, notamment au niveau de l'Europe. Eh bien, il a décidé de faire un roman pour raconter ça, et il a fait exploser la chose avec ce personnage, mais là, il y a mis toute son imagination. C'est pour ça que je disais, l'information tue l'imagination. Là, c'est très documenté, mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'apprends tout sur les hackers, mais je suis sûr qu'il y a des essais et des documents sur le sujet qui m'en diront mille fois plus. Et là, il se passe rien d'un point de vue romanesque. Voilà.
Alors, Frédéric, t'es pas d'accord du tout ?
Je suis pas du tout d'accord, sauf sur le tout début, où c'est vrai que Antoine, l'assistant parlementaire, moi je me suis dit, oulala, c'est un peu cliché, ça m'intéressait moyennement, mais dès que elle apparaît, alors là vraiment on a un personnage très très intéressant, et même du point de vue littéraire, il y a cette phrase, elle avait vécu l'attente bipée et crachotante des modems avant connexion. J'ai jamais lu en fait quelqu'un qui trouve le style pour parler d'internet. Même Éric Reynard dans son très bon roman ne trouve pas
Aurélien Bélanger,
style nouveau.
C'est ça, très bien.
Aurélien, mais oui, voilà. Mais peut-être que là il y a la poésie en plus. Autre exemple, le monde était sur pause et l'image était de mauvaise qualité. Ça fait penser à du William Gibson. Je trouve que le travail qu'elle a fait sur le vocabulaire d'internet, les anons qui sont les anonymous, les ops qui sont les opérateurs qui inventent des lignes de code, les props qui sont ceux qui sont propagandistes et qui trouvent des idées pour dénoncer des choses, dévoiler des vérités et tout ça. Tout ça, moi, j'ignorais totalement l'existence de ça. C'est tout un monde que j'ai découvert grâce à Alice Zeniter. Et rien que pour ça, ce livre est vraiment passionnant, je trouve, de bout en bout. Et puis alors, le fait que Antoine et elle soient très différents, c'est ça qui fait l'intérêt du livre. Lui, c'est le monde d'avant, mais c'est aussi le monde du dehors. Et elle, c'est le monde d'après, mais c'est aussi le monde du dedans, le monde... Du dedans, c'est le monde dans Internet, dans le virtuel, et pas dans la vraie vie. Et moi, je trouve que ces deux personnages vont très bien ensemble.
Olivia.
Eh bien, c'est exactement pour ce que vient de raconter Frédéric que je trouve que le livre est un peu raté. Parce que chaque personnage, justement, incarne une thèse. C'est ambitieux, c'est intelligent, c'est bien écrit, on est d'accord. On voit exactement ce qu'elle veut faire. Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager en politique aujourd'hui et comment on peut changer le monde ?
Et la fin est à cet égard très intéressante.
Comment on peut le changer de l'intérieur en étant un attaché parlementaire et en participant à la politique, et comment on peut le changer en étant à cœur. Mais je trouve que le problème, c'est celui du roman à thèse, c'est que ça manque totalement de romanesque, de chair. Alors, comme dit un ami très cher, un peu méchamment, thèse, antithèse, prothèse.
Oui, mais
donc, on a beau être intéressé par ce qu'elle raconte, et elle a le culot de s'intéresser à des choses sur lesquelles on n'a aucun recul, comme effectivement les anonymous, les gilets jaunes. Elle écrit quasiment au moment où se passent les choses. Mais moi, je reste totalement en dehors du livre. Je reste au bord du chemin, tout le temps.
On ne peut pas reprocher à Grégoire Delacour de parler ridiculement des gilets jaunes, d'un côté, et de l'autre. Reprocher à Alice Zeniter d'essayer justement de trouver des solutions.
Mais si, justement.
Mais elle essaye d'en trouver, mais
c'est la voie du milieu, monsieur.
Est-ce qu'elle en trouve ? Et encore une fois, elle a le sens du détail qui fait mouche.
Ah, pas te demander des gens.
Voilà. Je trouve qu'il y a des.
C'est pas un roman désespéré, c'est ça qui est bien.
Du livre ou.
Non, attendez, on vient d'avoir un moment historique.
Quoi ?
Arnaud Vivian vient de faire l'éloge de la voix du milieu.
Non, mais oui, c'est vrai. Oui.
Non, mais en littérature. C'est un moment historique. C'est un moment historique.
Et Frédéric Becbédé vient de faire de l'éloge de quand il ne se passe rien entre un homme et une femme. C'est historique.
Est-ce que c'est le retour du public qui provoque ça ? Enfin, il y a quelque chose, le public masqué. Moi, je ne sais pas comment traduire ma déconvenue. C'est-à-dire, j'ai été un peu comme Olivia par rapport à ce livre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur l'ambition, le projet, ce que ça veut dire et tout ça, mais... je trouve décevant. Je trouve que les chapitres et les situations sont trop longs, c'est trop étiré. Je trouve ça bancal, je trouve ça un peu confus, je trouve ça laborieux, puis en même temps évanescent. Enfin, ça trouve pas son rythme. Tout est laissé en plan. Enfin, les origines, le destin des personnages. Alors, il y a des belles scènes. Hein, la visite à la prison est un très beau moment. Les rapports de l'assistant parlementaire avec le député, moi, je trouve ça pas mal du tout. Mais je trouve que l'ensemble ne tient pas. Et je vais aggraver mon cas. Je trouve que ces personnages de Gilets jaunes sont plus consistants chez de la cour que chez elle. Voilà.
Comme un empire dans un empire, c'est donc Alice Zénitaire et c'est chez Flammarion. Et on termine avec Impossible, le titre du nouveau roman que j'adore, du grand écrivain italien Eri De Luca, traduit chez Gallimard par Daniel Le Valin. Un livre où on retrouve d'ailleurs sa passion de grimpeur, sinon d'alpiniste, pour la montagne. Et c'est sur un sentier justement escarpé des Dolomites, plus précisément sur une vire, qu'un homme tombe dans le vide et se tue. Celui qu'il suit donne aussitôt l'alerte. Or, les deux hommes ont été membres d'un même groupe révolutionnaire 40 ans plus tôt. Et celui qui a fait une chute vertigineuse avait livré, pour échapper à la prison, tous ses anciens camarades à la police. Alors, pour le magistrat qui est chargé de l'affaire, c'est évident, ça sent le meurtre prémédité et la vengeance. Et donc, le roman va mettre face à face ce jeune juge et l'accusé, ou plutôt le soupçonné, qui appartient, écrit De Luca, à la génération la plus poursuivie en justice de l'histoire d'Italie, et qui écrit depuis sa cellule d'isolement des lettres à la femme qu'il aime. Quant au titre Impossible, c'est, je cite, la définition d'un événement jusqu'au moment où il se produit. Dites-moi ce que vous en pensez, Jean-Claude.
Ah, c'est un livre d'une très très grande tension. Enfin, narrativement, c'est très très fort. Enfin, c'est
bref d'ailleurs.
Oui, c'est ça. D'autres. C'est bref. C'est
du... Et ça ajoute, à mon avis, à sa tension.
Voilà, c'est ça. C'est en effet la brièveté ajoute à la tension. On va d'un huis clos à un autre, c'est-à-dire le huis clos de l'interrogatoire par le magistrat, le face à face, le bras de fer psychologique entre les deux personnages, et ensuite le huis clos de la cellule où ce prévenu envoie des lettres à une correspondante mystérieuse dont il est absolument évident, au terme du livre, que cette correspondante mystérieuse n'est rien d'autre que la voix de sa conscience. C'est-à-dire que...
On peut laisser planer le doute.
Oui, on peut laisser planer le doute.
Ah,
oui,
pour le lecteur. Hein.
Oui, absolument. Non, mais sans doute qu'il l'envoie à quelqu'un, c'est bien possible, mais ça lui permet, c'est la voix de sa conscience, en tout cas c'est cette forme épistolaire. C'est un dialogue tout à fait passionnant, le bras de fer entre le magistrat et ce prévenu, puisque la force change de côté. C'est-à-dire que le magistrat croit pouvoir le coincer, et puis à force d'argutie, de dialogue, de maïeutique, de dialectique, le prévenu va se révéler plus fort que celui qui l'interroge et va l'acculer à une sorte d'impuissance à trouver la moindre preuve, à essayer de comprendre quelle est la nature de ce geste. Et il y a dans le dialogue de ces deux hommes comme ça qui se confrontent quelque chose de très très fort, de très maîtrisé, de très haut tendu.
Et qui touche tout, c'est aussi bien sur l'amitié que sur la trahison, oui. Sur alors, ça ferait d'ailleurs un film formidable.
Oui. Ça ressemble un peu Garde à vue, oui, c'est ouais. Ça, oui, c'est ça. Et alors, je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi. Moi, j'ai eu l'impression que la forme romanesque épousait véritablement le rythme et la forme d'une course en montagne. C'est-à-dire que on fait un effort monté, il y a des plateaux pour souffler, il y a le refuge du repos qui est le soir dans la prison. On a comme ça une alternance de sensations d'effort et d'exaltation en le lisant. Et voilà. Enfin.
Tu as aimé, Frédéric?
Moins, un peu moins, moi, parce que j'ai trouvé qu'on
comprenait.
C'est mon côté Michel Crépu.
Oui, c'est.
Non, mais on a compris, en fait, assez vite. Voilà, il y en a un qui accuse l'autre et l'autre qui dit « Mais non, c'est une coïncidence, je me promenais en montagne. » Mais la 25e fois qu'il le dit, on a l'impression quand même de faire du surplace. C'est embêtant pour un livre qui parle de randonnée en montagne. On a l'impression que ça n'avance pas tellement. Et l'image finale du livre, c'est deux chamois qui se battent à coups de corne et qui tombent tous les deux dans le vide. Et j'ai retenu ça, moi. J'ai l'impression que c'était ça, la morale de cette histoire.
Bon, tu boudes cette immense série De Luca, Olivia ?
Alors moi, j'ai trouvé ça sublime. J'ai trouvé que l'affrontement était extraordinaire parce que les deux hommes sont formidables. Souvent, dans ce genre de livre, il y en a un qui est de mauvaise qualité. Là, c'est deux hommes de grande qualité. Il raconte ce qu'a été le XXe siècle en Italie. Il dit que ce sont des années périmées. Et moi, à la fin du livre, j'étais personnellement un révolutionnaire italien. J'étais lui, parce que je trouve que
c'est-à-dire
lui...
le pouvoir de ce livre.
Il y a beaucoup de romans communistes au programme.
Il raconte ce que c'est que l'engagement, ce que c'est que la responsabilité, ce que c'est que la trahison. J'ai trouvé que c'était d'une intelligence extraordinaire. Et les lettres d'amour, vous savez, j'aime bien, s'il y a des extraterrestres qui arrivent, on leur explique qu'est-ce que c'est que l'amour. On leur fait lire les lettres qu'il écrit. Il écrit « Tu es ma conseillère en épices et en chaussures, tu me coupes les poils des oreilles ». Ben c'est ça l'amour.
Voilà. Moi, j'adore. C'est ta définition.
Oui.
Je redirai la même formule. Je pense que l'extrême gauche mérite une bien meilleure littérature.
Oh.
J'adore Eri De Luca, qui est vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, moi, un des grands chocs esthétiques, un des derniers grands romans que j'ai lus, c'est un livre qu'il a signé, qui s'appelle La nature exposée, qui parlait déjà beaucoup de montagne. Le problème de ce livre, si vous voulez, c'est quand même une forme de ressassement, à la fois à l'intérieur. Ben oui, non, mais même un ressassement par rapport à Eri De Luca, c'est-à-dire qu'il a déjà beaucoup parlé de la montagne, il a déjà beaucoup parlé évidemment de son passé politique, de son expérience et son expérience de la prison. Quand vous êtes un lecteur d'Eri De Luca, vous dites bon ben, écoute vieux, là c'est un peu paresseux quand même, tu vois. Puis tu nous
comment
l'as déjà raconté.
Comment est-ce qu'on peut déconseiller la lecture de ce roman?
Vous savez comment il définit
encore
la montagne?
Mais tout le monde n'a pas lu Eri De Luca. Eri De Luca.
Mais alors tu peux dire ça de Modiano?
La nature.
Chose.
Non, là, Frédéric a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà,
alors Frédéric n'a pas toujours
l'histoire de la
raison.
Coïncidence, si, ça va y voir. Mais là, c'est nous qui sommes.
Non, mais tu sais, camion avec Jean-Claude.
Si, alors, on peut le défendre.
Tu es bienvenu.
Il y a un truc bien, c'est que à un moment, il parle d'un palindrome antimilitariste. Non à ce canon.
Ouais.
C'est une phrase que tu peux lire dans les deux sens.
Oui.
Donc c'est intéressant quand même.
Impossible, c'est Eri.
Que je t'en donne un autre. Élu par cette crapule.
Impossible, c'est donc Eri De Luca que nous sommes certains à cette tribune à vous conseiller.
Ah, oh, c'est sublime.
De lire.
Pas celui-là.
Chez Gallimard. D'ailleurs, lisez tout De Luca. On en vient au conseil de fin d'émission. C'est un premier roman de la rentrée. C'est un roman. C'est autre chose. Vous avez le choix. On va commencer avec Olivia.
Béni soit Sixtine de Maëlys Adémar. C'est un roman publié par Julliard. C'est le premier roman publié par Vanessa Springora à la tête des éditions Julliard. Et c'est un roman passionnant sur l'emprise aussi, mais pas une emprise sexuelle là. C'est une jeune femme qui est née dans un milieu de catholiques intégristes et qui va épouser un ignoble mec, enfin un salopard. Et c'est un milieu où les femmes sont destinées en fait à faire des enfants, à se reproduire et à ne rien dire. La malheureuse est enceinte et elle a une grossesse très difficile. Et au lieu de prendre un doliprane, on lui conseille de faire des prières, ce qui n'est pas très bon pour les grossesses difficiles. Et puis elle va finir par s'échapper.
Tu vas choquer des gens.
Elle va finir par s'échapper de ce milieu. Et c'est un roman qu'on peut lire absolument comme un thriller, qui est très subtil sur l'emprise d'une religion sur une jeune fille.
Et c'est chez
Julliard.
Le conseil d'Arnaud.
Alors, Un hiver à Wuhan d'Alexandre Labruf, qui avait publié un premier roman formidable l'année dernière, qui s'appelait Chronique d'une station-service. Et là, juste après l'apparition de ce roman, il est reparti en Chine, qui est un pays dans lequel il a beaucoup travaillé. Il était notamment, il raconte ça dans ce récit, hein, c'était un récit, il est reparti comme attaché culturel à Wuhan, donc, vous savez donc,
en octobre 2019,
il a de la chance. 2019, c'est-à-dire juste au moment où l'épidémie allait se déclarer. Donc c'est un émule de Baudrillard, Alexandre Labruf, et ça c'est formidable aussi. C'est comment quelqu'un se met comme ça dans la piste d'un grand écrivain qui était Baudrillard et qui fait un récit à la fois fragmenté, puisque c'était le style de Baudrillard, hilarant, paranoïaque, apocalyptique de l'apparition du virus donc à Wuhan et comment il va revenir en France. Il va d'ailleurs à un festival au Havre, un festival littéraire en janvier, et il pense qu'il va créer un véritable cluster là-bas. Et c'est vraiment un livre, d'abord peut-être que l'histoire littéraire retiendra que c'est le premier avoir écrit un livre sur le coronavirus.
Non.
Franchement, il y a une beauté, une intelligence et une idée de la littérature qui est formidable.
Je suis totalement d'accord avec toi et je te signale que tu liras le 10 ou 12 ou 15 septembre un livre de la romancière chinoise Fang Fang, ouais, qui paraît chez Stock et qui est son journal du confinement à Wuhan. et qui est exactement, à mon avis, complémentaire de ce que tu...
Qui est formidable.
Et qui est formidable. Et donc, j'ajouterais, moi, Fang Fang, si j'ose dire, à ton...
À la Bruffe. Alexandre Labruf, c'est chez Vertical.
Et les deux vont très bien ensemble.
Un hiver à Wuhan.
Mon conseil, ce n'est pas un roman, un petit bouquin que j'ai adoré, qui s'appelle Le Bill Bucket de Jean-Jacques Rousseau et autres divertissements d'Alexis Ferraud. Ça veut dire quelque chose chez Anne Carrière, qui est un livre vraiment de monomaniaque absolu, puisqu'il relève toutes les formes de nez dans La Recherche du Temps Perdu. Il compte les litres de thé qu'on boit dans les romans de Dostoïevski. Il décrit les appartements, mais tous les appartements qu'habite Christian Auster dans ses romans, toutes les Mercedes dans lesquelles roule Houellebecq, les cigarettes que fument les femmes dans les romans d'Eschnauz. Bref, j'en oublie, il y en a plein, et c'est à la fois drôle, c'est léger, c'est des tout petits chapitres, et ça en dit beaucoup sur la manière aussi de lire les écrivains qu'on aime. C'est le Bill Bucket de Jean-Jacques Rousseau et autres divertissements, et c'est chez Anne Carrière. Le conseil de Frédéric.
Mais tu demandes des premiers romans, et puis là, on a un deuxième roman.
Non, mais je...
Recueil de textes.
C'est un premier récit après un premier roman.
Je suis le seul, qui, avec Olivia, à respecter la contrainte.
Non, parce que moi, j'ai conseillé Le Fumoir de Marius Geoffrey dans la dernière émission. Oui.
Bon, alors là, non, j'ai reçu un premier roman d'une jeune Québécoise.
Ah, génial, La Trajectoire des Confettis.
La Trajectoire des Confettis.
Extraordinaire.
De Marie-Ève Thuot.
Très bon titre.
Et c'est aux éditions du Sous-Sol, excellente maison, qui d'ailleurs, enfin, je trouve, fait vraiment beaucoup de...
Il y a un excellent livre qui s'appelle Adrien Le Coup de la Vie de Déborah Lévy, aussi extraordinaire livre.
Oui, et je trouve que c'est très important qu'on publie enfin les auteurs québécois en France, parce que c'est un moyen de savoir ce qui va nous arriver dans 10 ans. Et là, bon, moi, pendant de longues années, la nuit, j'ai essayé d'analyser la trajectoire des confettis. C'est vrai que c'était quelque chose qui me préoccupait.
Sous kétamine?
J'ai jamais vraiment réussi à comprendre. Oui. Mais je trouve que c'est...
Puis la neige qui tombait sur les confettis.
C'est une belle métaphore, en tout cas, ce livre, de ce que sont les humains quand ils essayent de s'aimer. Voilà, ça se passe en 2015, en 1999, en 1899, en 2027. C'est cette espèce de roman complètement éclaté sur comment chercher un nouveau modèle amoureux qui sorte de la famille bourgeoise, nucléaire, traditionnelle. Et ça, c'est merveilleux.
Édition du Sous-Sol, et c'est, tu rappelles le nom de...
C'est de Marie-Ève Thuot, La Trajectoire des Confettis, voilà.
Et on finit avec le conseil de Jean-Claude.
Dernière cartouche de Caroline de Bodina, chez Stock. C'est un roman aux accents autobiographiques. Caroline de Bodina raconte la vie d'un certain Paul Détur, qui est mort à 51 ans en pleine journée dans une rue d'Orléans, le 3 février 1993, et qui est mort d'une balle à bout portant. Et on ne va pas savoir si c'est un accident ou un suicide. Il tripotait une arme, et on ne sait pas si c'est un suicide ou un accident. Et visiblement, cet homme a été son père, et elle fait un livre terrible sur cette aristocratie de province désargentée à cheval sur des principes désuets, faute de pouvoir tenir son rang. Et elle fait le portrait de cet homme qui est une sorte de frégolie des apparences, des faux semblants, qui est toujours empêtré dans ses mensonges, qui est une sorte d'as de l'embrouille, et surtout qui précipite sa perte et celle de sa famille. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est un livre cinglant, c'est toujours à l'os.
Bref, c'est un livre que tu aimes.
C'est un livre que j'aime beaucoup. Tous
ces conseils, voilà. Vous les retrouvez sur le site.
On part dans ton camion.
Et la plume, franceinter.fr. Je t'en prie, Olivia. Merci, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, Jean-Claude Raspien-Jas, Frédéric Becbédé pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique. Et je les remercie. Il y avait Cédric Châtelu, Sébastien Royer, Philippe Thibault. La réalisation était signée Xavier Pistuggia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, ce sera le jeudi 3 septembre dans ce même théâtre de l'Alliance Française 101, boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour une émission consacrée au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films, et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.